Alors, bonjour à tous. Donc Sonia, merci d'être avec nous pour une demi-heure pour nous parler d'Échiquier Positive Impact. Bon, pour le rappeler, hein, tu es co-gérante, tu es gérante d'Échiquier Positive Impact, mais tu es aussi co-gérante d'Échiquier Major, hein, notre fonds de grande capitalisation européenne, et tu es aussi responsable de toute notre équipe, je dirais d'une certaine façon de la practice, hein, donc ISR à la financière de l'échiquier. Le fonds Échiquier Positive Impact a à peu près 130 millions d'actifs sous gestion. Cet actif, il a doublé quasiment en un an. Donc merci à tous les auditeurs qui auraient souscrit au fonds pour votre support. C'est toujours très agréable, je pense, d'être suivi sur une initiative qui, à l'époque où on l'a lancé, en tout cas, était une initiative originale. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de capitaux qui s'investissent sur les thématiques ISR ou ESG. Je profite donc de ta présence, hein, puisque je l'ai rappelé, tu es en charge de toute notre approche ISR avec ton équipe, pour d'abord commencer en parlant un peu du travail de la financière de l'échiquier sur l'ISR. Alors, où est-ce que nous en sommes?
Alors, bonjour à tous et merci Pierre pour cette invitation à m'exprimer sur l'ISR en général et puis sur le fonds Positive Impact en particulier. Alors, l'ISR, ça fait très longtemps qu'on en fait à la financière de l'échiquier, hein, puisqu'on a développé cette expertise il y a déjà un peu plus de 12 ans. Et je dirais que les dernières années ont été particulièrement riches. Je rappelle qu'on avait lancé ce grand programme d'intégration ESG à 100% sur l'ensemble de nos fonds. Donc ça, c'était en fin 2017. Et le but, peut-être non avoué, était de susciter la vocation, ou en tout cas l'envie, pour certains gérants de passer à l'étape suivante, l'étape qui suit l'intégration ESG, qui est d'avoir des fonds ISR labellisés. Pour nous, on parle d'ISR labellisé quand la note sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance devient un filtre à part entière dans le processus d'investissement. Et vous l'avez sans doute vu passer, on a annoncé il y a quelques jours que nous avons fait labelliser quatre nouveaux fonds qui viennent s'ajouter aux deux fonds existants ISR, donc Échiquier Major et Échiquier Positive Impact. Et donc, ces fonds, aujourd'hui, représentent en totalité à peu près 30% de nos encours, donc ils sont labellisés désormais. Et puis, on adresse des nouvelles catégories. Donc, on a un fonds action mid-cap avec Échiquier Agénor Euro et Europe. Le fonds large cap, ça, c'est Échiquier Major. Un fonds blend avec Positive Impact. Un fonds crédit avec
C'est
Échiquier Crédit
d'Europe.
Europe. Et puis, un fonds couvert qui est Alpha Major. Donc, on a maintenant une gamme qui est bien étoffée et qui s'est fait vraiment dans la continuité. On est arrivé à convaincre certains de nos collègues de monter cette marche supplémentaire et de faire labelliser leur fonds.
Et alors aussi des certificats étrangers, je crois. Est-ce que tu peux
Absolument.
en dire un mot?
Oui, alors c'est cohérent en fait avec notre présence en Europe, hein, puisque on a ces dernières années ouvert des bureaux en Italie, en Allemagne, en Belgique,
En
en Suisse
Suisse.
et en Espagne. Et donc, on a décidé pour nos fonds historiques ISR, donc Major et Positive Impact, de demander la labellisation en Belgique et en Allemagne. Et on a effectivement obtenu ces labels dans ces deux pays. Les critères sont un petit peu différents, hein. Je ne vais pas m'étendre forcément sur les subtilités, mais concrètement, ça s'est matérialisé par un peu plus d'exclusion que ce que l'on fait, que ce que l'on fait déjà.
Bon, très intéressant. Donc, ces labels étrangers, c'est une petite contrainte supplémentaire par rapport à l'exercice de gestion sur ces fonds ISR, mais ça ne change pas fondamentalement, en fait,
Non, absolument
l'approche de
pas.
gestion. J'ai une question qu'on me pose souvent et je trouve que je pense qu'on est, faut être très fier de ce que l'on fait parce que, en fait, on a commencé à avoir une approche ISR bien avant beaucoup de monde. Qu'est-ce qui, d'après toi, nous distingue d'autres approches de concurrents?
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait déjà très longtemps qu'on travaille cette matière, hein, donc on a développé notre méthodologie d'analyse des critères ESG qui est propriétaire à la financière l'échiquier il y a déjà 12 ans. Et je dirais cette antériorité, quelque part, nous donne à la fois de la légitimité, Mais surtout, je dirais qu'on a vraiment monté cette courbe d'apprentissage, où certains de nos concurrents sont juste en train de démarrer, je dirais, ce voyage. Eh bien, nous, on a déjà quelques kilomètres derrière nous. Et donc, ça, outre la légitimité, ça nous permet de bien positionner l'ISR au sein de la gestion. Et ça nous permet aussi, cette antériorité, on a essayé de la mettre à profit pour justement essayer de déboulonner quelque part une des idées reçues les plus fortes ou les plus tenaces qu'on entend à propos de l'ISR, qui est le sujet de la performance. Est-ce qu'il faut accepter un sacrifice de performance quand on fait de l'ISR? Et on a écrit cette étude en début 2019 pour montrer justement qu'au contraire, l'ISR ne détruisait pas de performance, mais plutôt est un apport supplémentaire à la gestion, puisqu'on va analyser des critères que tout le monde ne regarde pas encore et qui vont nous aider à mieux comprendre les entreprises dans lesquelles on investit, mieux comprendre aussi leurs risques. On parlait de différences. Donc, cette méthodologie propriétaire, elle a une caractéristique forte, c'est que la composante gouvernance, donc le G de l'ESG, ça représente 60% de notre note. Et ça, c'est quelque chose d'assez différenciant. Ça vient vraiment de notre ADN. À l'échiquier, on a toujours accordé une importance capitale à la qualité de la gouvernance des entreprises dans lesquelles on investit. L'autre élément différenciant, et j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai dit qu'on a déployé ce plan d'intégration ESG sur l'ensemble de notre gamme, c'est qu'on a vraiment voulu impliquer toute l'équipe de gestion. Pourquoi c'est important d'impliquer...
Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'impliquer toute l'équipe de gestion?
Alors, c'est un bon point. C'est que tous les gérants et les analystes ont été formés à noter leurs entreprises sur des critères ESG, notamment sur le G, en fait. Pourquoi c'est important? Parce que pour l'appropriation du sujet, c'est, je dirais, capital pour qu'un gérant puisse prendre des décisions de gestion sur la base de cette note ESG. Eh bien, si c'est lui qui a fait le travail, si c'est lui qui arrive à la conclusion que cette entreprise présente des risques trop importants, eh bien, c'est là qu'il va agir dans sa gestion. Et c'est pour ça que c'est capital d'impliquer toute l'équipe, sachant que, bien évidemment, l'équipe ISR reste contrôle qualité de toutes les notes qui sont produites par nos collègues analystes et gérants pour assurer une homogénéité des notations.
Alors j'aime bien le dire aussi ou le souligner, c'est que cet exercice donc, qui fait que les gérants sont intégrés dans cet effort leur permet en fait d'avoir d'autres points de contact avec les entreprises que ceux qu'il n'aurait s'il se contentait de faire une analyse purement financière. On est d'accord?
Exactement.
Et c'est une façon de mieux comprendre l'entreprise dans laquelle on est investi, de mieux comprendre sa culture, et d'une certaine façon, c'est une façon de renforcer sa conviction d'investisseur sur un dossier.
Absolument. Ou au contraire, de se rendre compte que peut-être il y a des choses qu'on n'avait pas vues de prime abord et qui méritent d'être... soit creusé, soit dans certains cas, même un peu extrêmes, ont pu conduire à des désinvestissements.
Donc, alors, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, sur l'étude qui permet donc de valider le fait que cette approche est créatrice de valeur, pour vous dire qu'on la tient bien sûr à votre disposition. Il y a un document long et un document court. Ce sont de très bons documents si vous avez des discussions avec vos clients, en fait, pour pouvoir élaborer une réponse construite sur le sujet. Bon,
je peux peut-être ajouter parce que l'étude en fait s'arrête avec les données au 31 décembre 2018. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on va faire une petite mise à jour. Ça sera assez bref, pour montrer comment ont performé les différents portefeuilles qu'on analyse dans cette étude en 2019. Et je peux déjà vous dire que ça va exactement dans le même sens. On prend les mêmes et on recommence.
Donc, surperformance
absolument.
Par rapport aux indices.
Bon. Absolument.
Alors, je crois qu'il est temps de parler de PI. Donc, PI, c'est échiquier positive impact. La façon dont on l'appelle en interne. Comment EPI se positionne dans cette offre de fonds ISR? Est-ce que c'est un fonds qui est différent? Est-ce que tu peux élaborer sur cette question?
Oui, alors Échiquier Positive Impact, c'est un fonds, comme son nom l'indique, d'investissement à impact dans un univers d'entreprises cotées. Nous, on voit vraiment l'impact comme la nouvelle frontière quelque part de l'ISR.
Donc c'est ISR plus l'impact.
Voilà, si on veut, c'est vraiment aller gravir une marche supplémentaire. Donc tout à l'heure, j'ai parlé première marche, intégration ESG. Deuxième marche, lorsque la note ESG devient contraignante, on est sur de l'ISR. Troisième marche, lorsqu'en plus on ajoute des critères d'impact dans la sélection des valeurs, je vais le détailler dans une minute, eh bien là on peut parler d'investissement à impact coté. Alors cette approche de l'impact, on a essayé vraiment de l'avoir à 360 degrés dans ce que l'on fait dans ce fonds-là, que ce soit au travers de la façon dont on choisit nos critères d'exclusion, que ce soit dans la façon dont on va sélectionner les entreprises, mais aussi au travers d'un mécanisme de partage des frais de gestion que l'on a en place dans ce fonds-là, et également dans la façon dont on va faire de l'engagement avec les entreprises. Faire de l'engagement, c'est quoi concrètement? C'est proposer des axes d'amélioration aux entreprises. Alors peut-être si je fais un zoom sur la façon dont on les sélectionne, on a retenu une méthodologie que l'on a développée en interne autour des objectifs de développement durable de l'ONU.
Alors de quoi s'agit-il? Parce que...
Alors ces objectifs de développement durable ont été publiés fin 2015 pour les 15 prochaines années, donc à horizon 2030. Ils donnent une feuille de route au travers de 17 objectifs qui ont, je dirais, une vocation un peu presque étatique. Hein. Donc à la base, ça a été surtout fait pour les États, pour se les approprier, avec comme objectif d'éliminer la pauvreté, protéger la planète et arriver à la prospérité pour tous. Donc au-delà de un peu l'image très belle que cela renvoie, il y a des choses très très concrètes qui se cachent derrière chacun de ces 17 objectifs de développement durable. Et là, le premier travail qu'on a fait, c'est de disséquer les différentes cibles que l'ONU a fixées derrière ces 17 objectifs, de façon à les traduire en ce qu'ils pourraient impliquer pour des entreprises. Donc on a une méthodologie qui est disponible sur notre site internet et au travers de notre rapport d'impact.
Est-ce que tous ces objectifs sont utilisables dans un exercice de sélection de valeurs?
Alors non, ça a d'ailleurs été la première étape. Ça a été de dire que sur les 17, on était capable d'identifier des activités auxquelles les entreprises peuvent contribuer autour de 9 d'entre eux seulement.
Donc l'idée, c'est d'investir dans des entreprises qui permettent d'atteindre ou qui travaillent pour atteindre ces objectifs-là, voilà, qui sont au nombre de 9 sur 17.
Exactement.
Voilà, et de s'atteler derrière ces dossiers-là pour finalement bénéficier du développement qui résulte de la croissance, de l'implication des États dans l'atteinte de ces objectifs.
Absolument, parce que ce qu'il faut voir, c'est que ça a été chiffré. Il a été mesuré que l'atteinte de 4 ou 5 ODD seulement allait générer des opportunités business de l'ordre de 12 000 milliards de dollars. Donc c'est assez colossal.
Oui, donc derrière ces objectifs, en fait, il y a des croissances de métiers.
Absolument.
Et des croissances potentielles de chiffre d'affaires.
Exactement. Et donc la première étape, ça a été de dire, identifions sur les 17 quels sont les ODD, on va dire, orientés business, donc sur lesquels on est en capacité de mesurer un chiffre d'affaires de contribution. Et ensuite, on a défini pour chacun des types d'activités. Donc ça peut être, par exemple, si je prends l'ODD numéro 3 qui est bonne santé et bien-être, eh bien derrière cet ODD, l'ONU place tout ce qui est fabrication de médicaments, fabrication de vaccins, de technologies médicales, mais aussi la sécurité routière et l'assurance des personnes. Donc voilà comment, à partir d'un objectif qui est assez vaste,
hein, oui,
bonne santé et bien-être,
oui, d'accord,
en allant décortiquer ce qu'il y a derrière, c'est le message de l'ONU, hein, ce n'est pas nous qui avons fait notre cuisine dans notre coin, eh bien, on arrive à un certain nombre d'activités qui sont investissables. Et encore une fois, comme tu le disais, ce sont des activités qui sont appelées à avoir de la croissance, donc à générer une croissance qui sera liée au fait que ces objectifs ont été fixés pour les 15 prochaines années.
Donc, en fait, on peut les appliquer parce qu'il y a plein de valeurs cotées.
Absolument.
Qui sont bénéficiaires, en fait, qui vont bénéficier ou qui bénéficient déjà. De la croissance, de l'implication des États sur l'atteinte de ces objectifs.
Exactement. C'était ça l'idée.
Donc tu disais qu'il y en avait un certain nombre, que bon, on les utilise pour sélectionner des valeurs. Dans le fond, il y a aussi des exclusions. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi?
Oui,
alors qu'il y avait plus d'exclusions liées à la certification belge et allemande, mais on avait déjà des exclusions dans notre approche de sélection de valeurs.
Exactement. C'est le fonds à la financière de l'échiquier qui pratique le plus d'exclusion. Alors, ce n'est pas quelque chose dont on est forcément fier a priori. Mais pourquoi on a fait ça? Parce que c'est un souci, encore une fois, de cohérence. Un fonds qui s'affiche comme ayant un impact positif doit assumer le fait de ne pas investir dans des entreprises qui ont un impact négatif trop important. Donc je donne quelques exemples. On ne trouve pas dans ce fonds-là des fabricants de cigarettes, on ne trouve pas dans ce fonds-là des producteurs d'alcool, on ne trouve pas dans ce fonds-là des entreprises qui sont dans le secteur du gaz et du pétrole, par exemple. Et donc l'idée, c'était vraiment d'être en cohérence avec, quelque part, la promesse qui se cache derrière un fonds qui s'appelle Positive Impact, qui est de générer un impact positif.
Est-ce qu'on retrouve des exclusions dans nos fonds ISR?
Oui, absolument. Donc, Échiquier Major, par exemple, va avoir certaines similitudes. Donc, on ne trouvera pas non plus d'oil and gas, enfin de gaz et pétrole dans Échiquier Major, pas non plus
l'énergie
de cigarettes.
Fossile, on va
voilà,
dire.
Énergie fossile. De même qu'il n'y a pas d'entreprise de tabac au sein de la société de gestion. Là, c'est vrai pour toute la financière de l'échiquier.
Mais alors, est-ce que ça laisse suffisamment un univers investissable suffisamment important, tout ça?
Alors oui, pourquoi? Parce qu'on a un territoire qui est assez vaste, qui sont les actions européennes. Il en existe à peu près, on va dire, 2500 qui ont une liquidité suffisante. Et donc, effectivement, même si on se concentre sur un univers un peu plus qualifié, qui sont les, on va dire, 600 entreprises que l'on connaît bien, que l'on rencontre souvent, eh bien, in fine, des entreprises qui passent l'ensemble de nos filtres, il y en a à peu près 150. Donc, c'est un peu notre territoire plus restreint. Mais il y a aussi tout un pan de notre univers d'investissement sur lequel le travail reste à faire de rencontres, de notations, de mesures de cet impact positif et qui sont potentiellement des candidats pour ce fonds.
Alors, tu le disais, c'est un fonds européen. Mmh. Je le disais en introduction, on a 130 millions d'euros d'actifs sous gestion. Il est composé de combien de titres, ce fonds?
Alors aujourd'hui, on a 37 valeurs et je dirais que notre zone habituelle, c'est entre 35 et 45. Donc un fonds qui est assez concentré, assez caractéristique pour ceux qui connaissent les autres fonds de la maison, assez caractéristique de ce que l'on fait par ailleurs dans nos autres fonds. Donc je dirais que de ce point de vue, il ne dépareille pas. Sa particularité, comme je disais, c'est qu'il investit dans tout type de capitalisation. Donc à ce jour, on a 7% de small cap, 15% de mid, et le reste, ce sont des large cap. Historiquement, le fonds a eu un peu plus de small et mid cap que ça, sachant que la somme de small et mid, on se limite à 60%. Et qu'aujourd'hui, on en est très loin. Au cours de l'année 2019, on a particulièrement fait attention aux toutes petites valeurs parce qu'il y avait des sujets de liquidité. Donc, la gestion du risque est très importante dans ce fonds-là également. Mais voilà, on a une possibilité de faire des small et mid-cap aussi dans ce fonds. De la même façon, c'est un fonds blend. Donc, on a une dominante croissance qui est très, très marquée et qui le restera de façon structurelle. Historiquement, on avait entre 20 et 30 % de value. Actuellement, on est en dessous, on est autour de 15. Mais on a la possibilité, à un moment donné, si on pense que il va y avoir un rattrapage du value, on peut faire un petit peu plus de value dans ce fonds-là.
Donc, c'est un fonds multi-style, multi-cap, mais avec, dans le cadre donc, de la définition précise de ce fonds d'impact. Il y a des caractéristiques. Quels sont les pays qui sont très représentés, peu représentés?
Dans les pays qui sont très représentés, on a la France. On a une proximité avec les entreprises françaises, ça c'est indéniable, mais ce n'est pas le seul critère.
Est-ce que les entreprises françaises sont des bons élèves ou sont en retard ou
non,
en avance?
Et alors, sur le seul critère de la note ESG, puisque dans ce fonds-là, on a un critère de note ESG aussi, En France, on a de très, 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 très belles sociétés qui sont impliquées en matière de responsabilité sociale de l'entreprise depuis de nombreuses années. Alors, la réglementation a aidé à ce qu'on soit dans cette situation aujourd'hui. Mais on a de très belles entreprises et donc on a un univers assez riche pour faire du stock picking d'impact en France. Donc,
Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse, Sonia, ça va me permettre de respirer. Sonia est très modeste, mais pour dire que quand même, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui veulent accélérer leur démarche ESG viennent te consulter ou viennent consulter ton équipe pour savoir quelles sont les meilleures pratiques. Hein. Et je pense qu'on a été, on peut le dire hein, d'une certaine façon, des militants efficaces de la cause de l'ESG parmi les entreprises françaises.
Oui.
Tu me confirmes?
Ah oui, je confirme parce que y a pas plus tard qu'une dizaine de jours, j'étais à un séminaire de l'Association des relations investisseurs de France pour justement expliquer pourquoi le reporting sur les critères ESG est important pour nous, parce que c'est notre matière première en fait. Et donc on ne s'économise pas, on le fait pour faire avancer un peu la cause. Et c'est vrai qu'on est très très impliqués justement auprès des entreprises pour les aider à progresser. Alors ça peut être au moment des assemblées générales où elles sont amenées parfois à nous consulter en amont pour savoir si telle ou telle résolution qu'une entreprise compte présenter. Comment est-ce qu'on se positionne
Alors,
par rapport à ça ?
Alors, ce n'est pas de l'activisme, c'est du participatisme.
Voilà. On est en amont. Hein, donc, nous, on aime bien le dialogue avant que les sujets deviennent un peu brûlants. Donc, chaque fois qu'on peut, on se prête à cet exercice qui va au-delà, hein, quelque part, de notre fonction. Mais on le fait bien volontiers. Et donc, on se prête à ce jeu-là.
Alors, j'ai une petite question rapide. Enfin, bon, les pays, qu'est-ce que tu peux nous dire? La France et après?
Donc, la France est le plus gros poids, autour de 40%. Ensuite, on a le Royaume-Uni qui est en dessous de 20%. Donc, on est sous-exposé par rapport à notre indice. Et le troisième pays, c'est la Suède, notamment parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, mais une de nos convictions fortes, c'est une entreprise suédoise qui est dans les premiers poids du portefeuille.
Et l'indice, c'est un indice assez générique, hein, puisque
oui.
C'est le MSCI Europe NR. Hein. Peut-être tu disais donc c'était small cap, mid cap, large cap. Est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes avec les autres fonds de la maison finalement ou est-ce que c'est une sélection de valeurs qui est originale par rapport aux autres fonds?
Alors on a la chance de pouvoir s'appuyer, je parlais tout à l'heure de value par exemple, à un moment donné si on veut faire un peu plus de value, assez naturellement on va aller voir nos collègues gèrent cette stratégie. Et c'est un petit peu la même chose sur les small et mid-cap, puisque l'univers couvert aujourd'hui par notre équipe small et mid-cap va de la micro à la small à la mid. Donc on a déjà un univers couvert qui est très très important, déjà bien qualifié. Donc on peut s'appuyer sur l'expertise de nos collègues. Et puis après, on a aussi, je dirais, de façon indépendante, un certain nombre de valeurs qui sont suivies par l'équipe de Positive Impact.
Alors bon, on sait qu'à la financière de l'échiquier, il y a des objectifs d'achat, de vente, on parlera peut-être un peu de dossier si on a le temps, mais j'ai une curiosité, est-ce qu'il est déjà arrivé qu'on ait sorti des titres parce que finalement, ils ont été dégradés, je dirais, sur les critères ESG à un tel point qu'ils aient dû sortir du fond?
Alors, c'est une bonne question et je voudrais, avant de répondre à celle-ci, rebondir sur ton point. Cela va sans dire, mais c'est beaucoup mieux en le disant. Dans ce fonds-là, comme dans tous les autres, on a une attention évidemment toute particulière aux critères financiers. Donc la sélection financière est un filtre à part entière dans ce fonds-là comme dans tous les autres. Je tiens quand même
C'est un fonds qui est là pour performer.
Exactement. Et pour répondre à ta question, en fait, récemment, je n'ai pas d'exemple concret à te donner d'entreprise qui serait sortie parce qu'il y a eu une controverse grave et sa note a baissé et elle n'est plus éligible au fonds ou parce qu'on n'est pas content sur un... Voilà, sur un... Il y a eu des controverses ou ce genre de choses. Par contre, je peux te donner un exemple, c'est qu'on a Prudential, qui est une entreprise dans le secteur de l'assurance, qui a spin-offé sa partie asset management.
Ça veut donc, dire distribuer à ses actionnaires.
Distribuer à ses actionnaires une entreprise qui s'appelle MNJ, que sans doute vous connaissez. MNJ toute seule ne remplit pas les critères de la charte d'échiquier Positive Impact, donc nous l'avons cédée. Autre exemple, on est en cours de session puisque pour entrer dans le fonds, on avait un critère minimum de chiffre d'affaires qui correspond aux objectifs de développement durable de 10% minimum du chiffre d'affaires. On a passé la barre à 20% et donc on a une entreprise qui n'est plus éligible, qui est Alten et qu'on est en train de sortir.
Donc on a renforcé en fait nos critères, hein,
absolument,
de façon à ce qu'ils soient encore plus positifs impact.
Tout à fait.
Juste peut-être une question. Qu'est-ce que tu peux nous rappeler la performance de la stratégie? Parce que je pense que c'est important d'insister sur le fait que effectivement, c'est pas parce que c'est positive impact que c'est pas performant.
Absolument. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a même quasiment le sentiment qu'on desservirait notre propre cause si on n'était pas capable de délivrer dans la durée une performance. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur la performance? Depuis le début de l'année, on est à 28,5%, donc c'est les chiffres d'hier. Soit 7 points devant notre indice de référence. Sur 3 ans, le fonds affiche une performance de 38% contre un indice à 28%. Et sur 5 ans, le fonds est à plus 51% contre un indice à plus 31%.
Oui, parce que c'est une des caractéristiques. C'est un fonds qui a un track record relativement long.
Absolument.
Dans la catégorie du positive impact, en fait. Hein.
Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'avant même d'adopter cette méthodologie des objectifs de développement durable qui a été mise en place de façon très, très formelle en 2017, eh bien avant cela, c'était un fonds qui investissait dans des entreprises qui répondaient à des enjeux du développement durable. Donc les ODD, ça a été pour nous l'occasion de formaliser, d'avoir une grille un peu indiscutable, de définition très claire de ce que sont les activités à impact positif. Même si on le faisait auparavant, mais de façon beaucoup moins formalisée.
On n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que tu peux nous donner quelques noms de sociétés qui sont présentes dans le fonds? Quels sont,
oui,
les gros poids alors?
Alors, les gros poids, ce sont des entreprises qui combinent à la fois des impacts positifs importants, ça c'est sûr, mais aussi, et ça j'en ai pas parlé, on a dans ce fonds-là, une construction de portefeuille qui est absolument rigoureuse. Les pondérations, en fait, sont construites en inverse de risque. Et ça, pour nous, ça, c'est important puisque ça permet de limiter ou en tout cas de contenir la volatilité du portefeuille. Tant et si bien que même avec un fonds où on a des small et des mid-cap, on arrive à avoir une volatilité qui est assez proche de son indice de référence. Donc, par définition, dans les plus grosse pondération, ce sera des entreprises assez faiblement volatiles. Donc, deux exemples dont je peux vous parler. Svenska Cellulosa, donc tout à l'heure, je parlais de la Suède, qui est une entreprise suédoise. Svenska, c'est le plus gros propriétaire d'actifs forestiers privés en Europe. Une entreprise qui possède l'équivalent de la taille de la Belgique en actifs forestiers. Pourquoi c'est une entreprise que l'on apprécie? Déjà parce que la capacité d'absorption de CO2 des forêts est colossale, que de facto, ce sont des actifs qui sont appelés à se revaloriser dans un monde qui vise la neutralité carbone. Mmh. Et puis surtout parce que même sans se projeter à 2050 et cet objectif de neutralité carbone, d'ores et déjà, c'est une entreprise qui a commencé un exercice de revalorisation de ses actifs qui était historiquement à la valeur de bilan. Il y a aujourd'hui de nombreuses transactions qui permettent d'afficher une valeur de marché de ces forêts qui est très, très supérieure à la valeur de bilan. Et juste donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui, la valeur de ces actifs représente à peu près la capitalisation boursière. Donc, toutes les activités industrielles que sont la fabrication de matériaux de construction à base de bois, de pâte à papier, d'emballage, etc., ne sont pas encore correctement valorisées.
Un deuxième exemple,
c'est RELX. Donc RELX, c'est une entreprise anglaise qui est présente dans deux secteurs en particulier. La diffusion de recherche académique, donc c'est le leader mondial de publication d'articles scientifiques, notamment de...
Diffusion de l'information à haute
académique,
valeur ajoutée.
Exactement, qui fait avancer la science. Et puis, c'est une entreprise, enfin, on la connaît mal sous cet angle-là, en fait, c'est une entreprise de big data. Pourquoi? Parce que toute cette connaissance qu'elle a emmagasinée, toute la connaissance qu'elle est capable de mettre en valeur au travers des bases de données qu'elle a développées elle-même ou qu'elle acquiert, permet de construire des outils d'aide à la décision pour un certain nombre de secteurs, donc, comme par exemple le secteur de l'assurance, où les secteurs de lutte contre la fraude, donc typiquement pour les États, donc des outils qui vont permettre de détecter les fraudes au système de santé, les usurpations d'identité, ou encore qui vont permettre aux assureurs d'avoir un meilleur pricing de leur police d'assurance et donc de faire en sorte que les bons risques ne payent pas pour les mauvais risques. Et donc, voilà le type d'activité que l'on aime bien. C'est une entreprise qui croît son chiffre d'affaires de 4% par an, qui a un rythme de croissance de ses bénéfices qui est un peu plus important, puisqu'elle améliore ses marges chaque année. Et donc, on considère que la valorisation est encore attractive à ce stade.
Alors, on voit que vous connaissez bien les cas, que tu es passionné. C'est toujours très, très agréable de partager ça. Hélas, notre demi-heure arrive à échéance. Je ne sais pas si c'est un ODD, mais en tout cas, c'est un objectif que nous nous sommes fixés. C'est d'essayer de respecter strictement ce calendrier. Donc, il est temps de conclure, peut-être en disant que EPI est déjà un fonds qui performe très bien. Puisqu'on a parlé de la performance year to date, 28,5%, et qui existe et qui a un track record long, hein, puisque c'est un fonds qui a plus de 5 ans maintenant. EPI, finalement, c'est ISR+, hein, et je pense que finalement, c'est tout cet argument autour des ODD, je le trouve très, très intéressant parce que je pense que tout le monde est à même de comprendre qu'il est important d'améliorer un certain nombre de choses et ces objectifs-là correspondent à ces améliorations nécessaires, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en bénéficient, tu l'as dit, hein, ce n'est pas un exercice de naïveté en fait, hein, ça reste un exercice d'investisseur. Il y a aussi un mécanisme de partage, hein, on en a parlé très rapidement, mais ça aussi ça participe à l'impact, hein, puisqu'il y a une partie des commissions de gestion qui sont redistribuées à la Fondation La Financière de l'Échiquier, et j'attire votre attention sur la très grande qualité du travail qui est mené par la Fondation. Ce n'est pas le sujet, mais on n'a pas de temps d'en parler, mais je suis toujours très, très impressionné par la qualité de l'investissement et des opérations qui sont menées par la Fondation La Financière de l'Échiquier. Et puis, dernier point, je pense que c'est aussi finalement une participation à un autre objectif, c'est l'amélioration finalement du fonctionnement des sociétés, puisque effectivement, et ça je peux témoigner, hein, Sonia, son équipe, toute l'équipe de gestion, puisque toute l'équipe est impliquée, finalement participe énormément à essayer d'améliorer la conduite des entreprises, et ça nous est c'est très important pour nous parce que je crois qu'on l'a démontré, on est convaincu, hein, une bonne approche de gouvernance, c'est généralement une bonne approche sociale, une bonne approche environnementale, et finalement c'est moins de risques pour un investisseur et moins de risques pour les capitaux que vous nous confiez. Donc on arrive à la fin, Sonia, encore merci.
Merci.
Merci à tous pour votre écoute.
Merci beaucoup.